prennent hautain, forestier et champêtre, l'arbre premier de tant d'arbres d'hiver, l'arbre immortel au renom de mes vers, l'arbre au serpent toujours au dieu maître, le coudre rond, mais tu te fais connaître, prompt à la guerre et jamais de travers, de toi tortue les monts ne sont couverts, ince haut et droit toujours a voulu naître, je fais mes dards pour tous mes arcs de toi, les forestiers en font de même moi, et Panarète en fait les siens encore, Phébus aussi en patronne ses traits, sa chaste sœur son carquois en décor, ainsi au bois à tout nom satisfait. Chronique amoureuse des plantes mal aimées. Présentée par Lo, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe, Aurélie d'Aïla Naturo.
Mauvaise graine. Mauvaise graine.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'arborogrès,
de l'arrêchou,
du cantharidier,
du quinquina d'Europe,
du fragnou,
du fraîche,
de l'arbre au centenaire,
de l'arbre à trous,
arbre aux enfants, c'est-à-dire du frêne commun, Fraxinus excelsior.
Pour parler étymologie, Fraxinus vient du latin qui signifie frêne, ou javelot, ou cendre, selon les traductions et références dans les textes. Ça peut aussi venir de frasso, je clos, je fends, et enfin excelsior signifie être élevé au-dessus, et nous verrons qu'il porte bien son nom.
Pour la partie botanique, le frêne commun fait partie de la famille des oléacées, au même titre que l'olivier, le lilas ou le forsythia. C'est l'un des arbres les plus hauts de nos contrées. Il peut atteindre jusqu'à 20 ou 30 mètres de haut. Il est présent sur toute l'Europe jusqu'au Caucase. Il est plutôt fréquent dans les plaines, mais il pousse aussi dans les montagnes jusqu'à 1400 mètres d'altitude. C'est la cinquième espèce la plus courante en France depuis que les ormes ont été décimées. Il aime les sols frais à humides. On le voit souvent pousser près de l'eau, dans les haies bordées de fossés ou les marécages. Il stabilise les berges grâce à son vaste réseau racinaire.
D'ailleurs, pour cette raison, les druides l'invoquaient pour conjurer la force destructive des eaux.
C'est une espèce pionnière, recherchant la lumière et pouvant vivre jusqu'à 200-300 ans. Lorsqu'il est jeune, son écorce est gris-vert, puis devient profondément fissurée par la suite. Il est facilement reconnaissable à ses bourgeons noirs et ses feuilles composées de 7 à 15 folioles ovales lancéolées finement dentées. C'est un arbre à feuilles caduques, c'est-à-dire qu'il perd ses feuilles en hiver. Les fleurs, elles, apparaissent en bouquet avant l'apparition des feuilles au printemps, aux extrémités des rameaux. Il porte des fleurs mâles pour produire le pollen et des fleurs femelles avec un ovaire qui, une fois fécondé, devient le fruit. Jusque-là, simple et banal.
Mais le frêne complique un peu le tableau. Il porte aussi des fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire des fleurs avec des organes mâles et avec des organes femelles.
Un champion de la diversité sexuelle. En botanique, on parle de plantes trioïques. Les fleurs femelles produisent donc des graines plates et ailées, appelées samars ou surnommées langue d'oiseau.
Il y a aussi deux autres espèces qui lui ressemblent. Le frêne à feuilles étroites, Fraxinus angustifolius, présent plutôt dans le sud de la France et en Corse, mais on en a quand même quelques spécimens en Loire-Atlantique. Et le frêne à fleurs, Fraxinus hornus, plus petit et poussant dans les régions de climat doux, mais il n'est pas présent dans notre département.
Et oui, il accueille aussi de nombreux animaux. Une étude britannique recense 1058 espèces animales et végétales associées au frêne. Il y aurait donc 55 mammifères, 44 espèces, dont 4 lichens, 11 champignons et 29 invertébrés, qui semblent exclusivement dépendants du frêne, vivant ou mort, tandis que 66 autres en sont fortement dépendants. Parmi les espèces menacées, on peut citer le damier du frêne, papillon faisant déjà l'objet de mesures de protection en France.
Mauvaise graine.
Et alors le frêne, est-ce qu'il y a des croyances qui sont attachées à cet arbre? Est-ce que tu en connais, Lou?
Bah pour commencer, d'après Bertrand Bernard, on le dit empêcheur de pousser en rond, trop gourmand en nutriments, en place et en eau, et donc il concurrencerait ses voisins. Pourtant, on le plante justement parce qu'il pousse rapidement et très hautement. Et c'est bien normal qu'il soit un peu gourmand. Une partie de sa mauvaise réputation vient encore une fois de la religion chrétienne. En effet, elle a voulu effacer la vénération que les populations portent à cet arbre, qui est un énorme symbole des forces de la nature, des dieux et des déesses païennes. Par exemple, en 665, en Irlande, les autorités chrétiennes firent abattre 3 frênes séculaires, car les Irlandais continuaient à les révérer et à se rassembler dessous pour des cérémonies païennes alors qu'ils avaient été christianisés depuis plusieurs siècles. Donc la religion chrétienne dit que cet arbre porte malheur et qu'il faut absolument les abattre, car sinon le malheur s'abattra sur les maisons. Je reviendrai sur l'importance de cet arbre dans la partie symbolique.
Eh bien, moi, je voulais vous parler de la calarose du frêne. C'est une maladie émergente et létale des frênes communs. Il s'agit d'un champignon pathogène originaire d'Asie. Et oui, encore un. Depuis 2008, il est recommandé de ne plus planter du frêne pour éviter la propagation de la maladie. Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette proposition, puisque en faisant ça, on risque d'accélérer sa disparition. Car moins on plante de frênes, moins il risque d'en rester pour résister à cette fameuse maladie. Sachant que par chez nous, on n'a pas encore la maladie. C'est seulement dans l'est de la France. Et il faut savoir que chez les adultes frênes, d'environ 9 ans et d'un diamètre supérieur à 25 cm, la mortalité annuelle reste assez faible, de l'ordre de 3%.
Donc en fait, la solution, c'est plutôt de laisser les arbres vieillir, en fait.
Voilà, d'en planter à l'avance, avant que la maladie arrive jusqu'à chez nous. Pour moi, ce serait de faire l'inverse.
Et oui, car ce serait bien dommage pour la biodiversité de laisser cet arbre disparaître. Car en plus d'être beau et majestueux, en plus accueillant de nombreux animaux, il est aussi très utile pour les humains, pour son bois et aussi pour ses feuilles et fruits aux vertus médicinales. Et donc, nous allons vous parler de tous ces avantages tout au long de cette chronique.
Chercher comme l'alchimiste les extrêmes de mes membres, tanguer comme l'optimiste les tempêtes de décembre, les tempêtes de décembre qui t'entêtent à descendre. Oh,
Vous venez d'écouter le groupe Fren. Et oui, il existe un groupe qui s'appelle Fren. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et il nous interprétait l'optimiste. Vous écoutez Mauvaise Graine et nous parlons aujourd'hui du Fren.
Empédocle déclare que les arbres sont les premiers vivants à être sortis de la terre, avant que le soleil ne se fût déployé et avant que le jour et la nuit ne fussent distincts. Ils enveloppent en un être unique la proportion du mâle et de la femelle. Ils croissent et grandissent sous l'effet de la chaleur répandue dans la terre, de telle sorte qu'ils sont des parties de la terre à la façon dont l'embryon de le ventre est une partie de la matrice. Les fruits sont des sécrétions de l'eau et du feu qui sont dans les plantes.
Nous venons d'entendre un texte d'Aesius qui montre la place essentielle des arbres dans de nombreuses cultures.
En effet, pour de nombreux mythes, les arbres n'ont pas été créés. Ils sont, et ce depuis la nuit des temps. Ils sont là même bien avant les dieux. Donc ils sont importants pour les humains pour de multiples raisons. D'abord, ils sont axes du monde. Ils soutiennent la voûte céleste et font le lien entre les mondes, le monde souterrain des défunts, le monde terrestre des humains et le monde céleste des divinités. Ils captent le rayonnement solaire et l'énergie cosmique le jour, ce qui leur permet de donner des feuilles et des fruits qui nourrissent les êtres vivants. Et ils captent le rayonnement stellaire la nuit, qui permet la communication entre les mondes. Enfin, ils sont parfaits car ils contiennent les quatre éléments, l'eau par la sève, la terre par les racines, l'air par les feuilles et le feu par l'écorce. Donc parmi toutes les légendes et mythes liés aux arbres et aux frênes qui nous intéressent aujourd'hui, j'ai choisi, avec beaucoup de difficultés, d'évoquer principalement la Grèce antique, les Celtes et les Scandinaves.
Est-ce que tu peux nous parler des Grecs ?
Ben oui, on va commencer chronologiquement donc par les Grecs, chez qui on trouve les traces écrites les plus anciennes au sujet du Fren. Notamment chez Hésiode, du 8e siècle avant Jésus-Christ, qu'il évoque dans son ouvrage Théogonie. Dans les Frennes habitent les Méliades, qui sont des nymphes, nées d'Ouranos, la personnification du ciel. Les Méliades sont considérées comme les mères de la race humaine, car le premier homme serait le fils d'une Méliade et d'Inachos, le dieu du fleuve. Elle protège enfants et troupeaux. Le Fren est aussi dédié à Poséidon, le maître des terres immergées et du feu. Il incarne la stabilité absolue face au déchaînement de la mer et des océans. Alors, il possède des pouvoirs de divination venus des dieux, car issu de la foudre, parce qu'il est censé l'attirer très fortement.
C'est sûrement à cause de sa grande hauteur.
Sans doute. Dans l'Iliade, il est mentionné plusieurs fois car c'est un arbre martial dédié à l'art de la guerre, doté d'une solidité puissante et censé, en plus, donner sa force aux combattants. Le javelot d'Achille, qui tua Hector, est en frêne, ainsi que les lances de nombreux combattants. L'arc et la flèche d'Héros, plus connus sous le nom de Cupidon, sont en frêne, ainsi que celui d'Artémis, déesse de la nature sauvage, de la chasse et protectrice des femmes.
C'est ma préférée.
Je comprends. Hésiode raconte que la troisième race d'hommes, les guerriers du bronze, les plus valeureux, est née du frêne. Donc on voit que c'est un arbre qui est lié à la virilité et à la masculinité pour beaucoup de cultures.
Et il me semblait que le frêne, il est important aussi pour les Celtes.
Exactement, pour les Celtes, il a carrément son mois, du 18 février au 17 mars du calendrier druidique. Le Fren est très important dans la pratique de la magie druidique, il est symbole de puissance, d'immortalité et de fécondité, entre autres. C'est aussi l'arbre de la guérison de l'âme. Les druides l'utilisent comme conducteur d'énergie. Il aide à guider les âmes des défunts dans leur voyage. Il est utilisé dans la fabrication de baguettes divinatoires. D'ailleurs, on en a trouvé récemment dans une tombe datant du 1er siècle en Angleterre. Le Fren accueille sous ses branches druides et druidesses pour les oracles. On l'invoque pour faire venir la pluie durant les périodes de sécheresse. Comme sa cime soutient la voûte céleste, s'il vacille, le ciel peut s'affaisser sur la terre et de ce fait tomber sur la tête des humains. Donc aussi, après les très fortes tempêtes, on offrait à l'arbre divers sacrifices, dont des sacrifices humains. Maintenant, on va chez les Scandinaves, quelques siècles plus tard quand même, avec le mythe du frêne Yggdrasil, que personnellement je trouve très beau. C'est un concept très particulier d'arbre-monde qui symbolise le cosmos à lui tout seul. En effet, dans leur cosmogonie, le frêne est la charpente du monde qui soutient la voûte céleste et c'est aussi un axe autour duquel gravitent les neuf mondes qui le composent. De nombreux animaux y habitent, chacun ayant une fonction symbolique. Donc, explorons rapidement cet univers. Partons des racines, il en possède trois qui s'enfondent dans trois mondes inférieurs où coulent trois sources qui sont très importantes pour la mythologie scandinave. Le tronc du frêne soutient les neuf mondes qui se trouvent en strates, en étages, de sa base jusqu'à la canopée. Il y a entre autres celui des morts, le monde du feu, de la glace, le monde des dieux mineurs, des majeurs. Et celui qui nous intéresse le plus, le monde des humains. Il s'appelle Midgard, qui veut dire le monde du milieu. Il a été créé par Odin et ses frères. Il est entouré d'eaux qui sont retenues par un serpent géant qui se mord la queue. Dans Yggdrasil habitent de nombreux animaux. En outre, un aigle qui veille tout en haut, une chèvre qui broute son feuillage et fournit les guerriers en hydromel, et mon préféré est l'écureuil Ratatoskr, le seul animal autorisé à parcourir tous les mondes et les étages, et il sert de messager à tous. Donc c'est un arbre qui a quand même un rapport très particulier, très étroit avec Odin, le dieu principal du panthéon scandinave. On les célèbre tous les deux à Yule, c'est-à-dire au solstice d'hiver. Odin s'y pendra 9 jours et 9 nuits pour accueillir la sagesse et l'écriture qu'il transmet après aux humains. Il est aussi le siège du tribunal des dieux et on y pratique divers sacrifices. Pour finir, c'est un arbre solaire attaché à l'or et au jaune. On dit qu'il se fanera et disparaîtra seulement le jour où la dernière bataille entre le bien et le mal sera livrée. Et il sortira ainsi du temps et de l'espace.
Mauvaise graine.
Donc, en tant qu'arbre de l'eau, le frêne est depuis longtemps connu pour son efficacité contre les troubles liés à l'humidité. Déjà dans le Saint-Empire germanique, Saint-Hildegarde le préconisait pour soigner la goutte. Ses feuilles sont diurétiques, elles aident donc les reins à éliminer l'eau et les déchets du métabolisme. Les feuilles de frêne favorisent surtout l'élimination des acides uriques et des cristaux acides. C'est pourquoi il est particulièrement intéressant en cas de calculs rénaux, de rhumatisme ou si on souffre de la goutte. Il peut également aider à faire perdre du poids en luttant contre la rétention d'eau et la cellulite. On peut utiliser donc le macérat de bourgeon pour son action décongestionnante et drainante qui va clairement agir sur les reins et aider l'organisme dans sa gestion de l'eau. Dans ce cas, on prendra 5 à 10 gouttes le matin, à jeun, directement sous la langue ou alors dilué dans un verre d'eau.
Est-ce que ce macérat a une action sur la sphère émotionnelle ?
Oui, il sera utile pour dissoudre les angoisses. Il peut aussi nous aider quand on se sent englué dans une situation qu'on n'arrive pas à avancer. Dans ce cas, on peut prendre des doses progressives. Donc le premier jour, 1 goutte 3 fois par jour, puis deuxième jour, 2 gouttes 3 fois par jour, puis 3 gouttes 3 fois par jour, puis on va rester sur 9 gouttes en une prise le reste des jours. Le frêne, c'est aussi un super anti-inflammatoire. Grâce à certains composés chimiques, les substances amères iridoïdes et ses coumarines, dont le fraxocide. Il est très utile en cas de douleurs articulaires comme l'arthrite, la polyarthrite ou l'inflammation des ligaments comme la tendinite ou la sciatique. Il va être particulièrement indiqué quand les douleurs articulaires sont accompagnées de surpoids ou quand il y a déformation des articulations noueuses au niveau des mains. On peut alors faire une cure jusqu'à 3 semaines par mois.
Et donc là, sous quelle forme on le prend ?
Alors, en infusion de feuilles, 30 à 40 grammes par litre. Une infusion longue, donc plutôt 4 heures d'infusion. Vous pouvez la préparer la veille pour que ce soit plus pratique. Et puis, il faut la prendre 3 fois par jour. Si on fait une crise rhumatismale ou des coliques néphrétiques, dans ce cas, on va boire une tasse d'infusion toutes les 2 heures. Et vous pouvez l'associer à la reine des prés qui va aider pour la douleur.
Et alors, si on a envie de cueillir soi-même les feuilles, quelle est la période optimale ?
Eh bien, c'est plutôt le mois de mai-juin, lorsque les feuilles suintent une substance collante que certains appellent le miella. Les feuilles sont plutôt efficaces séchées que fraîches. On peut volontiers remplacer aussi les feuilles par les jeunes fruits encore verts et odorants. Ceux-ci se récoltent plutôt en fin d'été, début d'automne, et là, on les utilisera plutôt en décoction. Si on n'est pas très tisane, on peut aussi l'utiliser sous forme d'alcoolature, c'est-à-dire des feuilles fraîches macérées dans de l'alcool. La posologie sera de 25 gouttes, deux fois par jour dans un verre d'eau, jusqu'à la suppression des symptômes.
Et est-ce qu'on peut aussi l'utiliser en externe, pour les douleurs articulaires par exemple ?
Oui, effectivement, on peut faire une décoction de feuilles, 100 grammes par litre, faire bouillir les feuilles dans de l'eau 15 minutes, puis imbiber des compresses et l'appliquer sur la zone douloureuse. L'usage anti-inflammatoire du frêne, il est aussi utile pour les enfants par exemple. Une tige de frêne à mâcher soulage les douleurs de poussée dentaire. Le frêne, c'est un super antioxydant, la plante de la jeunesse éternelle.
Et oui, comme disait Léon Binet, médecin du 19e siècle, pour vivre centenaire, il convient de boire chaque matin un grand verre d'infusion de feuilles, associé à celle du cassis, de la menthe et de la reine des prés.
Oui, cette boisson des centenaires donc, utilise des plantes séchées à part égale. 4 cuillères à soupe de feuilles séchées et hachées pour 500 ml en infusion longue de 30 minutes. Et on peut le boire le matin ou tout au long de la journée. On peut boire cette infusion tous les jours pendant 3 ou 4 semaines maximum. Il possède en effet des vertus qui sont plutôt utiles pour préparer la vieillesse. Il permet de tonifier et nettoyer l'organisme, de purifier le sang, de diminuer la rétention d'eau et de rendre les articulations moins douloureuses. Donc quand on vieillit, c'est intéressant.
Et une étude de 2020 a également exploré les possibles effets neuroprotecteurs de la plante dans le traitement de la maladie Alzheimer.
Aujourd'hui, l'usage de l'écorce a quasiment disparu. Mais au 19e siècle, le frêne était encore très utilisé comme fébrifuge. Il est particulièrement efficace pour faire baisser la fièvre. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle parfois quinquina d'Europe, en référence à l'arbuste originaire d'Équateur qui produit la quinine, utilisée pour lutter contre la malaria. L'écorce se récolte au printemps, avant le démarrage de la végétation, sur des branches de 2 à 3 ans.
Et là, on fait très attention quand on prélève l'écorce de ne pas trop abîmer l'arbre.
On peut même profiter d'une tempête quand il y a des branches qui tombent pour en récolter.
C'est quand même le top du top. Enfin, les fruits ont été aussi utilisés contre l'impuissance et la fertilité.
Et si on habite dans le sud et qu'on a des frênes à manne, Fraxinus ornus, près de chez soi, on peut utiliser son sucre extrait de la sève en faisant une coupe dans l'écorce. Les premières traces d'utilisation de la manne du frêne remontent à l'Antiquité. Elle contient du mannitol, du glucose, des sels minéraux, des vitamines et du sorbitol. Autant d'éléments qui facilitent le transit, d'où son utilisation comme purgatif doux. Aujourd'hui, c'est surtout la cosmétique qui l'emploie dans des soins nourrissants pour la peau, mettant à profit ses propriétés astringentes et anti-inflammatoires. Alors attention avec l'utilisation du frêne parce qu'il a clairement une action rafraîchissante, voire refroidissante et stimulante des reins. Donc on évitera d'utiliser cette cure à partir de la fin de l'automne jusqu'au printemps. Car l'hiver, c'est la période la plus sensible pour les reins à cause du froid. Il est important que les reins soient gardés au chaud durant cette période et de ne pas trop les solliciter. On sera également prudent pour une personne excessivement fatiguée, donc qui aurait peut-être une énergie rein faible. Et puis on va le déconseiller aux femmes enceintes.
Alors, au jardin, c'est un excellent bois de chauffage et la plupart des outils de jardin sont faits en frêne car c'est un bois robuste et souple. Et le petit plus, il ne produit pas d'écharde.
Donc, sa cendre est un excellent engrais pour le jardin. Les feuilles, elles, se décomposent très vite après leur chute en automne et donc augmentent l'activité biologique du sol. C'est un super fourrage pour les animaux dans les campagnes. Il était courant de pratiquer l'émondage de l'arbre pour nourrir le bétail.
Et pas seulement le bétail, les humains aussi, car les jeunes feuilles sont comestibles et on peut les ajouter hachées dans les plats. Avec, on fait ce qu'on appelle le cidre du pauvre ou le champagne des forêts, c'est-à-dire la frénette, qui est dit une boisson de longue vie.
Il y a une autre utilisation culinaire un peu oubliée, les fruits verts macérés dans du vinaigre qui servent de condiment comme les câpres. C'est une recette qui nous vient traditionnellement de l'Allemagne et de l'Angleterre.
Récoltées au printemps, ses feuilles et son écorce, riches en tanins et en flavonols, font une belle teinture solide au lavage.
Et de quelle couleur ?
Plutôt dans les tons jaunes ou vert-olive, ça dépend du matériau. Donc on comprend pourquoi les Scandinaves en ont fait un arbre monde. Car comme on l'a vu tout au long de l'émission, c'est un arbre complet qui est un excellent compagnon pour les humains.
Nous remercions toutes les mauvaises graines qui ont participé et permis la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain, le 12 décembre, pour un nouveau sujet qui ne manquera pas de piquant. Et si jamais vous loupez la date de cet épisode, il sera aussi rediffusé le 26.
Si vous avez des recettes sur le frêne à nous partager, n'hésitez pas à les communiquer sur notre compte Instagram, 2 comme le chiffre 2, mauvaises graines, et à nous laisser messages et commentaires sur les émissions et suivre nos actualités. Les podcasts de toutes nos émissions de la saison 1 et de cette nouvelle saison sont à retrouver sur le site de Jet FM.
À bientôt.
Au revoir.